Vous écoutez l'émission associativement vôtre sur RTVFM.
Dominique Dubé, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous nous sommes rencontrés déjà le mois dernier et il y a beaucoup de choses passionnantes en fait qui se sont passées. Et du coup, on va vous consacrer une seconde émission. Et cette fois-ci, on va s'intéresser un petit peu à votre parcours. Qu'est-ce qui fait que vous soyez arrivé à ce métier magnifique ? Mais il me semble que très jeune, vous étiez déjà intrigué par l'électricité, par certains phénomènes un petit peu curieux.
Effectivement, tout jeune, j'étais fasciné par l'électricité. La fée électricité qu'on ne voit pas et qui existe. Et c'est ce qui m'amenait de manière anecdotique à fabriquer ce qu'on appelait des petites girouettes, quoi, des hélices qui tournaient grâce au vent, avec des petites dynamos qui fabriquaient de l'électricité. Et j'étais émerveillé d'éclairer ma crèche avec cette petite lumière alors que j'étais tout gamin. Ça m'a conduit donc à être orienté dans la formation d'un métier lié à l'électricité, au départ donc l'électrotechnique jusqu'au BTS. Et puis après, les circonstances de la vie ont fait que je me sentais pas assez formé, donc j'ai été amené à reprendre des études dans le cadre du Conservatoire national des arts et métiers, centre associé de Lyon, donc un programme national piloté par Paris, mais donc formé à Lyon. Et là, j'ai commencé des certificats dans la branche de l'électronique générale. Et puis après, je me suis spécialisé donc en automatique. Et ce qui fait que ça m'a amené, ça a duré 8 ans tout ça. Au bout de 8 ans d'études et de formation, de réalisation d'un mémoire, d'une application liée à l'astronomie, à obtenir un diplôme d'ingénieur automaticien.
Donc là, c'était les premiers pas vers l'astronomie. Vous commenciez
alors,
déjà
alors, les premiers pas vers l'astronomie, je n'étais pas encore ingénieur, mais j'étais déjà électronicien. Et il y a une partie qui était où j'étais déjà dans l'astronomie. Mais donc, cette formation technique, je l'ai mis au service de la réalisation de prototypes pour l'astronomie et en lien avec des équipes de chercheurs, d'astrophysiciens, parce qu'on travaille en équipe. Ils m'ont donné la passion après, donc, bien sûr, de l'astronomie, où pour moi, j'étais trop heureux de mettre mes compétences, si on peut dire, au service de cette science qui est la science de l'infini, infini de l'espace, infini du temps.
Et cette notion de recherche, c'est ces grandes familles d'astrophysiciens, d'ingénieurs, enfin de gens qui ont quand même des niveaux mathématiciens et autres, c'est quelque chose de fabuleux qui vous a marqué dans votre carrière?
Ça m'a marqué dans ma carrière parce que j'ai rencontré des gens d'une grande intelligence, comme vous le dites, et d'une grande simplicité, d'une grande humanité. Et c'est vrai que j'ai fait partie de ceux qui n'étaient pas pressés de prendre leur retraite.
Bah, on peut comprendre, hein, vu toutes les missions dont on avait parlé déjà le mois dernier. Vous avez beaucoup voyagé, vous êtes allé à travers le monde, à travers toutes ces missions-là. Vous avez fait des belles rencontres, bien entendu.
Oui.
Il y a aussi une autre notion, quand vous travaillez sur un projet, la temporalité dans ce domaine-là n'est pas la même que dans d'autres domaines. C'est-à-dire que vous commencez à faire des recherches sur un projet, mais vous n'en verrez pas forcément arriver l'aboutissement, parce que c'est des choses qui durent jusqu'à plusieurs décennies, non ?
Exactement. Ce qui fait que quand je suis parti, par exemple, je n'ai pas vu l'avènement d'un très bel instrument qui est maintenant mis en service au Chili, qui s'appelle MUSE, un spectrographe intégral de champ, qui permet l'observation, donc, des spectres qui sont en fait les arcs-en-ciel des étoiles.
Mm-hmm.
On connaît très bien l'arc-en-ciel du soleil, hein, les gouttes d'eau des nuages qui décomposent la lumière du soleil. Et bien là, donc, on a des systèmes optiques qui remplacent ces gouttes d'eau et qui nous forment les arcs-en-ciel des étoiles. Et ces fameux appareils nous sortent des milliers d'arcs-en-ciel, des milliers de spectres. Et ces spectres ont une richesse d'informations fabuleuses, que ce soit au niveau de la physique, donc la température des étoiles, au niveau de la mécanique, on peut voir le mouvement des objets célestes, de la chimie, leur composition, hein, carbone, hydrogène, oxygène, etc. Et donc maintenant, c'est le fer de lance de l'Observatoire de Lyon qui est reconnu au niveau international par un appareil unique, ce fameux MUSE, qui est installé dans le désert d'Atacama, au Chili.
Donc ça, c'est des choses inoubliables. Donc ça peut paraître frustrant d'un côté de ne pas voir aboutir, mais d'un autre côté, ça vous laisse en lien avec toute cette famille-là que vous n'avez pas oubliée pour autant.
Exactement.
Parce que je crois qu'il y avait une jeune stagiaire qui était votre petite stagiaire à l'époque, aujourd'hui, mais c'est elle qui vous remplace.
C'est elle qui me remplace. Une fille, Marieuse, qui a fait l'école polytechnique féminine, ingénieure, et après qui a fait une thèse en astrophysique. Et
vous êtes partie l'esprit tranquille et vous avez même gardé des liens avec elle.
Exactement. Et avec aussi un jeune ingénieur qui était électronicien et avec lequel on a partagé beaucoup de passion. On a résolu et on a été confronté à beaucoup de problèmes et ça nous a renforcés.
Donc du coup, vous gardez quand même aussi la passion de transmettre parce que vous faites quand même des conférences, vous avez des choses encore qui se déroulent dans votre vie de retraité, entre guillemets, bien que je n'aime pas trop ce terme-là.
Oui, ben, j'aime rencontrer aussi particulièrement les jeunes et leur dire une chose toute simple, c'est que dans la vie, il ne faut pas avoir peur d'essayer. Il faut se lancer des défis, il faut se mettre la barre haute. On croit toujours qu'on n'est pas capable. Mais il n'y a que ceux qui ont essayé qui arrivent. Et après, on n'a pas le regret de ne pas l'avoir fait. Si ça ne marche pas, on aura au moins essayé. Et je leur dis aussi que la science, les techniques et la science amènent à des métiers de passion. Souvent, on voit ça de manière un peu rébarbative. Et moi, je l'ai vécu tout autrement. Et souvent, on fait rêver les jeunes avec des métiers qui sont des miroirs, un petit peu de la vie, alors qu'en fait, dans la science, on peut vraiment s'épanouir et vivre pleinement.
Avec quand même une nécessité de maîtriser certaines matières, hein, les mathématiques, à un point quand même suffisamment pointu quand même. Hein, pour,
Oui, mais quand vous êtes motivé, ça va déjà mieux.
Mais la motivation, ça aide.
Regardez, quand vous voyez les sportifs, ce qui s'impose comme exigence, ben, je crois que voilà, si on veut arriver à quelque chose, il faut essayer et puis y mettre de l'énergie, de la constance et puis pas avoir peur aussi de s'entourer, de se faire aider.
Donc du coup, vous avez fait un beau marathon de 42 ans, c'est ça?
À 42, oui.
Oui, c'est quand même
42 kilomètres.
Un beau score. Hein. Bien, ben, on va se retrouver dans un petit moment après une pause.
RTVFM, l'esprit jeune.
Kissing strangers, till I find someone I trust. I can show you all the sonograms. Me, I'm gem, and these bitches is the holograms. Me, I win, and these bitches just lose. They ship sink, but my ship it just cruise. Anyway, I'm back with my baby cat, give me piggyback. Drip, drip, with that kitty cat, put it in his lap. Sip, sip, wanna tip, tip, flip, wanna slip, flip. I think he's trying to hit your nick like a quick, 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 na 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 na.
Kissing strangers.
Écoutez l'émission associativement vôtre sur RTVFM.
Donc on retrouve Dominique Dubé, ingénieur astrophysicien, qu'on a suivi un petit peu à Lyon, à l'Observatoire, dans ses différentes missions. Mais dans le métier passionnant que vous avez eu, puisque vous sortez d'un marathon de 42 ans, mais que vous n'avez pas terminé, vous vous souvenez de rencontres assez atypiques que vous avez pu faire?
Oui, effectivement. J'ai fait partie donc, du réseau des électroniciens de la recherche, ce qui m'a amené à côtoyer et rencontrer des gens qui sont pour certains devenus des amis et qui travaillaient dans des domaines tout à fait différents. Je pense par exemple à Jean-Paul Gentner, dans le laboratoire donc, de Strasbourg, qui travaillait sur les manchots, voir un petit peu ces animaux atypiques qui vivent dans des conditions très difficiles, des conditions de survie. Ils passent leur vie à essayer de survivre, puisque le climat est très, très rude hein, en Terre Adélie, et l'archipel de Crozet. Hein. Et en fait, grâce à l'électronique, il a pu mieux connaître leur mode de vie. Donc en plaçant des capteurs sur les plumes, on appelle ça les plumes de ces animaux,
oui.
Et il a pu les suivre dans leur migration. Quand ils partent de la banquise, ils partent avec un poids très faible, de 7 ou 8 kilos, ils vont se nourrir. Et donc ils font 400 km en mer et ils plongent à 400 mètres. Et donc grâce à tous ces capteurs et son électronique, il a pu mieux connaître leur parcours. En plus, ils passent sur des systèmes automatisés de balance qui les pèsent à l'aller-retour. Ils ont des capteurs comme des cartes d'identité, donc des cartes magnétiques qui font qu'on reconnaît l'animal, etc. C'est assez fabuleux. Voilà, donc on fait des rencontres étonnantes. Moi, j'ai mis l'électronique au service de l'astronomie et lui au service
du monde animal, oui. Ouais, voilà. Effectivement, c'est quelque chose qui est inattendu, quoi, parce qu'on ne pense pas que ça puisse forcément s'appliquer dans ce domaine-là. Voilà. Peut-être d'autres domaines aussi, la robotique, je pense.
Oui, alors là, ben, je reviens à l'astronomie. La chose qui m'a sidéré aussi, c'est la prouesse donc, de la sonde Rosetta avec son petit robot Philae. Et cette prouesse technologique européenne qui est assez mal connue et qui a été réussie, à savoir envoyer un robot sur le noyau d'une comète, en sachant que les comètes représentent les fossiles du système solaire. Donc on avait envie de mieux connaître la composition du noyau pour mieux connaître comment notre système solaire s'est formé. Eh bien, il a fallu 10 ans d'études, après 10 ans de voyage, pour envoyer à 500 millions de kilomètres, après un parcours de 6 milliards de kilomètres, puisque pour gagner de l'énergie, donc mettre moins de carburant dans la fusée, on s'est servi de l'énergie cinétique de la Terre, puis de l'énergie cinétique de Mars. Donc au bout de 10 ans, on est arrivé sur ce noyau de 5 km et on a posé un petit robot Philae à 100 mètres près sur ce noyau. Et ce robot, sur Terre, il pesait 100 kg et sur le noyau de la comète, il ne pèse plus qu'un gramme.
C'est assez fabuleux au niveau des chiffres, hein. Difficile voilà. À imaginer même.
Difficile.
Et il y a aussi d'autres domaines encore où on peut penser, enfin, je pense notamment aux prothèses, enfin tout ce qui touche un peu à la robotique, hein, je pense que c'est inspiré de ça.
Aussi, oui, bien sûr.
On peut imaginer que ces progrès technologiques puissent être mis aussi au service de la médecine. On en avait déjà parlé.
On parle d'opérations très délicates, je pense au niveau toujours cardiaque.
Oui.
Maintenant,
oui.
On arrive opérer le cœur pour faire des petits grillés, ce qu'on appelle des fusibles, pour des gens qui ont des arythmies. Et on fait ça avec une précision fabuleuse, parce que la moindre erreur, eh bien, après, on est obligé de mettre une pile au patient, parce qu'on va lui griller sa commande électrique, la bonne, alors qu'on veut griller la mauvaise. Là, c'est un point aussi qui m'a beaucoup marqué.
D'autres choses qui vous ont marqué dans votre parcours de... Alors là, c'est compliqué parce que vous n'êtes pas qu'astrophysicien. Je pense que vous avez quand même beaucoup de cordes à votre arc de connaissances multiples.
La dernière qui vient de me marquer maintenant, c'est que j'ai fait la rencontre avec des musiciens et qui ont envie de faire un concert lié aux étoiles. Et tout ça m'a mis en relation. Donc, je suis après rentré en relation avec une astrophysicienne, Sylvie Vauclair, qui, elle, a détecté... Je vous parlais des étoiles qui, donc... les émissions des étoiles, hein, donc, et certaines étoiles émettent des fréquences musicales.
Ah oui.
Ça, voilà. Donc,
c'est fabuleux, ça.
Musique des sphères, ce qu'on appelle.
Voilà. On peut écouter les étoiles?
Oui.
Vraiment?
Exactement, oui, oui. Puisque la fréquence donc, du rayonnement électromagnétique eh bien, est une fréquence musicale.
C'est extraordinaire, ça.
Voilà. Donc, ça, c'est aussi, je trouve que c'est fabuleux. Tout se rejoint.
Effectivement. D'autres anecdotes qui vous auraient un petit peu marqué sur votre parcours? Je pense que c'est beaucoup les missions, en fait, hein, qui vous ont marqué. Parce que je pense que oui. Vous êtes allé dans des endroits complètement inédits. Vous oui. y êtes parti fort longtemps pour certaines d'entre elles.
Mais ce qui m'avait marqué, alors je reviens à la Russie, une petite anecdote, c'est qu'on était dans un centre d'astronomie. C'est là que j'ai vu, par exemple, les premiers ordinateurs avec des claviers, ce qu'on appelle ergonomiques, c'est-à-dire qui avaient la forme adaptée. Et on sortait du centre et on croisait des braves paysans avec un âne et une charrette et du foin, quoi. C'est-à-dire la rupture entre la haute technologie dans un centre fermé et dès que vous sortiez, j'avais presque l'impression d'être dans la préhistoire. Ça m'avait un peu marqué.
Effectivement, oui, comme vous êtes dans un monde quand même qui est détaché du quotidien, on peut dire. Hein.
Ouais. Ou un marché aussi à Zelenchouk, vous avez pu voir une photo, où vous voyez, par exemple, de l'électronique vendue par terre sur une couverture.
Oui, on a vu ça.
Voilà.
Sur le sol glacé.
Ou des gens qui vendaient de la viande de bœuf coupée à l'âge. Enfin, vous voyez, on est dans un autre monde. Mais bon, et ça côtoie.
Les centre. Deux extrêmes qui se ouais. côtoient, oui, effectivement. Bien, on va faire une petite pause musicale avant de se retrouver pour une dernière petite séquence.
RTVFM, 100% tube.
Je ne sais t'enfuir.
Il est plus que tout pour moi envers et contre toi.
C'est lui et moi l'unisson, ne te berce pas d'illusions.
Il est plus que tout pour moi envers et contre toi.
RTVFM à Carpentras sur le 102.2. Écoutez l'émission associativement vôtre sur RTVFM.
On retrouve Dominique Dubé, ingénieur astrophysicien. Donc on a fait tout votre vos parcours entre Lyon, entre les différentes missions que vous avez pu faire à l'étranger. On va revenir un petit peu sur notre territoire comtadin parce que je crois que vous êtes fixé à Aubignan.
Exactement. En fait, pendant toute ma carrière professionnelle, j'avais l'occasion de venir régulièrement dans ce village que j'apprécie beaucoup, et d'ailleurs qui est le village où est née mon épouse. Et à cette époque, dans les années 96, j'ai eu connaissance qu'un objet céleste portait le nom du village, plus précisément un astéroïde. Alors ça m'avait amusé et intrigué. Et j'ai eu en fait l'histoire qui a été qu'un astronome célèbre, Sylvain Arend, contemporain d'Einstein, qui a été un grand découvreur de son époque, dans les années 1930 jusqu'à 1960, plus de 67, avait découvert des objets célestes intéressants, d'où la comète Arend-Roland, qui a laissé son nom, puisque c'est une comète brillante, où il avait donc tout effectué les calculs à l'époque à la main, et tout s'est avéré vrai. C'est quand même une prouesse d'arriver à ces résultats. Et il avait aussi découvert beaucoup d'astéroïdes. En fait, les astéroïdes, ce sont des bouts de cailloux, on peut dire, qui pour certains peuvent être assez gros, et entre Mars et Jupiter, et on est à peu près sûr que c'est une planète qui n'a pas pu se former, donc qui est restée à l'état primitif de cailloux qui tournent autour, et il y en a des millions. Alors, arrivé ici, j'ai été amené à faire des interventions auprès des jeunes, aussi à la médiathèque bibliothèque d'Aubignan, avec des associations, et voyant que dans ce pays, j'ai rencontré des gens qui ont la passion de la viticulture, des bons vins liés au Mont Ventoux, ce mythique Mont Ventoux. J'ai suggéré l'idée de développer une cuvée de l'astéroïde dans ce village qui a donné son nom, son nom est porté bien haut dans le ciel actuellement, et sachant aussi que la vigne est très tributaire du ciel. Voilà. Cette cuvée a été réalisée, c'est un franc succès.
Donc depuis quand elle existe ?
Alors depuis 2014, et elle a été pérennisée, donc une cuvée 2015 vient de sortir actuellement, et elle est magnifique, que ce soit au niveau de la présentation et de l'extérieur et de l'intérieur.
Oui, j'ai vu l'étiquette, le dos de l'étiquette où vous retracez l'histoire. On a plutôt envie de la garder entière telle qu'elle, hein, de jamais la boire. Et elle est produite, donc c'est un vin qui est produit à Aubignan, c'est ça ?
C'est un vin qui est produit à Aubignan.
Sans faire de publicité, on peut quand même le citer.
Voilà, au château Saint-Sauveur.
Donc c'est le château Saint-Sauveur qui désormais a donc une cuvée de l'astéroïde.
Voilà.
Sachant que donc il y a bien un astéroïde qui porte le nom d'Aubignan.
Il porte le nom d'Aubignan, et Noël Arend, donc mathématicien qui a vécu à Aubignan, c'est grâce à lui d'ailleurs au départ si le nom donc d'Aubignan a été donné à cet astéroïde.
Mais c'est arrivé comment pour arriver à citer Aubignan alors?
Oui, parce que je vous dis, son père, Sylvain Arend, venait se reposer à Aubignan.
Lui aussi.
Voilà. Et cet astronome aimait beaucoup ce village. Donc son fils a dit, mon père qui aimait beaucoup ce village, on pourrait donner le nom d'Aubignan à l'astéroïde.
Un village qui attire vraiment les astrophysiciens alors.
Voilà. Et Donc j'ai pu être mis en relation grâce à Noël avec des astrophysiciens de l'Observatoire royal de Belgique et qui m'ont fourni, ils ont pu retrouver des cahiers d'observation, des clichés.
Ah oui.
Et maintenant, la mairie d'Aubignan a tous ces vestiges. Tous
Donc
ces
à
documents.
La photo d'Aubignan au sol et d'Aubignan l'astéroïde aussi.
Oui, exactement.
Bien. Dominique, on va bientôt terminer cette émission. Vous faites de temps en temps des conférences, je crois. Hein, vous avez eu l'occasion d'en faire récemment, en tout cas, sur certains villages.
Oui.
Est-ce qu'il y en a bientôt qui sont programmés ou pas encore tout à fait?
Elles sont en cours de programmation, mais je pourrais vous...
C'est sur des thèmes particuliers ou c'est d'une façon générale?
Mon thème, en fait, c'est ce que l'œil ne peut voir. Donc, je développe à partir des techniques qui sont mises en application maintenant, les observations qui sont faites, et bien sûr, l'observation, en ce qui concerne Lyon, par exemple, du ciel profond, quoi, des objets les plus lointains, des galaxies lointaines, sachant que notre univers observable s'étend sur plus de 13,8 milliards d'années-lumière pour la distance. Mais ce que je voudrais aussi vous dire, hein, pour terminer, c'est que si la science essaye d'expliquer le comment, elle ne pourra jamais rien dire sur le pourquoi.
Oui, ça, on va le laisser effectivement à la liberté de chacun pour conclure sur cette émission. Donc, Dominique, on vous remercie et on vous souhaite une excellente fin de journée et au plaisir peut-être de vous retrouver prochainement dans une conférence.
Merci beaucoup pour votre accueil.
Au revoir, merci.
Au revoir.
La musique que j'aime.
Toute la musique que j'aime
sur RTVFM.
Je ne serai plus jamais seul. Accroupi à pleurer dans un coin de mon appartement, je rêve de retrouver le bonheur que j'avais auparavant. J'ai beau réaliser que ma nouvelle pièce est cool, je commence déjà à m'étouffer dans ce 10 mètres carrés. Diplômé, indépendantisé, je ramène des copines coquines, mais je fais que teaser. Hein, non, je veux pas être trentenaire, je rêvais d'une indépendance, mais là j'en tremble.
Cause I don't wanna be alone, I just wanna go back home. Every time I hear that song, I feel alone. Watch these people look so happy all around. My friends are gone, I'm all alone. On and on and on and on.
We don't know like
Je me balade dans la rue de ma ville. Je tape dans les canettes vides, ça me fait baler. Tout le monde est speed, je me sens tellement inutile. Franchement, faut changer d'attitude. Pas un seul employeur ne s'intéresse à mes aptitudes. Prisonnier et déshumanisé. J'ai cru pouvoir tout gagner, mais je ne sais pas miser. Hein? Non, j'ai pas une vie droite. Mais pourtant, mes parents pensent que j'accumule les victoires.
Cause I don't wanna be alone. I just wanna go back home. Every time I hear that song, I feel alone. Watch these people look so happy all around.
Jamais seul et on ne sera plus jamais seul, ouais. Yeah. Et je ne serai plus jamais seul, tout ne sera plus jamais seul. Même si nos vies sont casse-gueule, et je ne serai plus jamais seul, tout ne sera plus jamais seul.